الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب الشيخ خير la dernière fois on avait commencé les petits signes de qiyama qui n'ont pas encore eu lieu. Alors au tout début je crois qu'on avait fait une distinction entre les petits signes de qiyama annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui devaient avoir lieu à un moment précis et que ces signes une fois produits ben ça s'arrêtait à là. D'accord, on a vu certains exemples de faits de choses qui se sont produits à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou après ou il y a quelques siècles de cela qui devaient se produire une fois. La deuxième catégorie de petits signes de qiyama, ce sont des signes qui devaient avoir lieu après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ce sont là des événements ou des situations qui devaient perdurer jusqu'à l'arrivée des grands signes. Pas jusqu'à l'arrivée du Qiyam, hein, jusqu'à l'arrivée des grands signes. Et maintenant, nous entrons dans une troisième catégorie de petits signes de Qiyam qui se rapprochent vraiment des grands signes. Ce sont les petits signes qui n'ont pas encore eu lieu. Ce sont les petits signes annoncés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans donner de précision sur le moment où cela allait venir. Mais parfois, il y a certaines preuves, hein, certains qara'in dans le hadith qui nous font comprendre que cela se rapproche vraiment de la fin des temps, cela se rapproche des grands signes. Donc, une catégorie de ashrat al-sa'a, de signes de qiyama qui devaient avoir lieu, hein, que le prophète avait annoncé, mais qui ne se sont pas encore produits. Et parmi ces petits signes, le premier qu'on a vu il y a quelques semaines de cela, c'est Jabalan min Zahab. C'est cette montagne d'or qui devait émerger du fleuve de l'Euphrate. Et on avait vu que certains commentateurs allaient jusqu'à dire que bon, ben, c'est le pétrole dont a hérité le peuple arabe qui est qualifié comme étant l'or noir. Mais on a vu avec différents commentaires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé que c'est une montagne d'or qui allait émerger de l'Euphrate. Et le terme émerger, hein, ne correspond pas à la nature ou à la composition du pétrole, sachant que le pétrole c'est du liquide et donc le pétrole n'émerge pas, mais le pétrole se doit d'être extrait du sol, d'accord. Et puis on a vu également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait spécifié l'Euphrate. Et nous savons que le pétrole peut venir soit de la terre, soit de la nappe phréatique, d'accord. Mais il n'y a pas de pétrole qui sort de fleuve, ça sort de la mer, mais il n'y a pas de pétrole qui provienne de fleuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait précisé, l'Euphrate c'est un fleuve donc connu, et le pétrole qui est produit dans la péninsule arabe, que ce soit en Arabie Saoudite, aux Émirats ou même, allez, on irait même jusqu'à l'Iran, l'Irak, etc. Right? Alors ce pétrole qui est produit vient essentiellement de la terre et non pas de la mer. Et puis le prophète a précisé une région particulière, et cet endroit, ce pays n'est pas le pays qui produit le plus de pétrole. Donc différentes dalil qui nous font comprendre que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé il y a 14 siècles de cela ou 15 siècles, c'est réellement une montagne d'or. C'est l'or à l'état solide qui doit apparaître dans le fleuve de l'Euphrate. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait également annoncé qu'il y aurait quantité de personnes qui iraient vers ce fleuve pour s'approprier de ce trésor. Et si je ne m'abuse, une guerre où 99% des participants, 99% des personnes seront tuées, et nous n'avons pas vu jusqu'à maintenant des guerres vraiment pour s'approprier du pétrole. Bon, il y en a eu vraiment, bon, mais c'est pas, il n'y a pas eu autant de morts que ça, et ce n'est pas les pays du monde entier qui se sont réunis pour s'approprier de ce trésor. Bref, c'est différentes choses qui nous font comprendre que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé concernant l'Euphrate, c'est ce qu'on appelle, on doit le comprendre « ala zahir ». C'est-à-dire comme le mot du hadith le prouve, et non pas aller vers des interprétations qui risquent de nous éloigner de ce que le prophète alayhi salatu wassalam avait annoncé. Et c'est une règle qu'on doit retenir, c'est une règle qu'on doit retenir concernant les signes de Qiyama. Dernièrement, quand le cher Mohamed était là également, on avait discuté sur les signes de Qiyama. Il avait dit que principalement concernant Ashrat al-Sa'a, de nos jours, il y a tellement de livres qui sont écrits à propos des signes de Qiyama, mais ces livres ne respectent pas le manhaj de Ahl Sunnah wal Jama'a. Il y a beaucoup de livres qui sont écrits sur les signes de Qiyama, mais beaucoup de livres sont imprimés uniquement pour faire vendre. Malheureusement, comme en Occident, il y a des gens qui écrivent des livres pour vendre. Ben, même dans le monde musulman, il y a des gens qui n'hésitent pas à écrire des livres uniquement pour faire vendre. Et il dit que la pire des choses, quand on traite des signes de Qiyama, c'est de prendre un terme, une expression, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait utilisé il y a 15 siècles de cela, et on essaie de décortiquer ce terme et d'adapter le terme au contexte. C'est pas de voir est-ce que le contexte peut s'adapter au terme. Non. Si on prendra un terme, quelque chose que le prophète avait annoncé, on va faire tout pour le décortiquer, voire le déformer, pour l'adapter, on va le modeler, pour l'adapter à quelque chose qui se produit. Alors, je me suis laissé moi-même tromper une fois, pendant un hajj, j'avais acheté au moins une quinzaine de livres, au moins 8 ou 9 livres sur les signes de Qiyama. D'accord, j'étais content, j'ai dit, alhamdoulilah, c'est à l'époque qu'on avait commencé le sujet à Montreuil. J'ai dit, alhamdoulilah, on a pas mal de nouveautés maintenant, on pourra approfondir les sujets, peut-être revenir sur certains sujets. Je me suis mis à lire les livres qui étaient imprimés dans un pays arabe particulier dont je ne citerai pas le nom. Et je me suis rendu compte qu'ils traitaient certes des mêmes hadiths, des hadiths de base sur Imam Mehdi, sur Dajjal, principalement de 3 sujets, Imam Mehdi, Dajjal, et bon, le fameux Harmagedon, comme on dit en arabe, donc en français, donc Harmagedon, la bataille finale. La bataille finale, ça fait un peu dessin animé, hein. C'est-à-dire que le combat, l'affrontement final, d'accord. Et ils y allaient de toutes les interprétations possibles. Mais vraiment, des interprétations, ça dépasse les contes de fées, ça dépasse tout ce qu'on peut imaginer. Et lorsqu'on se rend compte que c'est, soit c'est des alim, hein, au cas c'est des alim, c'est plus grave, ou alors des écrivains qui maîtrisent la langue arabe et qui écrivent, mais alors des histoires fabuleuses juste pour faire vendre. Hein, quelques petites anecdotes, quand on parle de Dajjal qui se déplacera, on connaît que Dajjal aura une vitesse de déplacement exceptionnelle. Il pourra visiter le monde entier. Ça me dit bien qu'il n'y a pas un pays, ni un village, ni une région où Dajjal ne mettra pas les pieds. Donc, on pourrait dire que même la Réunion, Saint-Denis, Saint-Paul, Mafate, Sillaos, il n'y a aucun endroit où un musulman peut se cacher, mis à part Al-Haramain, Makka et Medina. Alors donc, il y a cette personne, un des alim, je ne sais même pas si c'est un alim qui écrit ça, il dit que certainement Dajjal aura un avion supersonique, un truc comme ça, qui le permettra, mais wallahi, c'est écrit, c'est des termes en arabe qui reviennent, parce que certains hadiths disent qu'il y aura une monture qui ressemblera à telle chose, ils disent que la description physique de la monture nous fait penser aux avions de notre époque, etc., etc. Donc c'est des interprétations qui vont beaucoup trop loin. Et plus on va loin dans les interprétations, ben on discrédite la religion, et ça c'est important. Ne jamais discréditer la religion. Alors souvent dans des discours, il y a des gens qui discréditent la religion par des histoires fabuleuses. L'histoire de... Ben moi j'ai rien contre des histoires, mais bon, tant qu'on reste un peu sur la terre, ça va. Ou alors l'idéal c'est quand on a des histoires qui remontent à des sources fiables. On a des chaînes de narration, d'accord. Mais de là à chaque fois, dire à tel bouzou qui faisait ça, celui-là il faisait la main sur l'eau, celui-là finalement il a vu quelqu'un finalement sur l'air, dire ah moi je fais la main sous l'eau, moi... C'est pas moi, je suis content pour eux, tant mieux, ils font différents types de namaz, bon, c'est des expériences, mais honnêtement, pour nous, ça nous apporte quoi? Nous ne sommes même pas capables de nous réveiller pour faire Fajr. On va nous raconter l'histoire d'un bouzou qui volait en faisant namaz avec son compagnon, c'est... Wallah, on se l'aime. Alors, imaginez maintenant quelqu'un qui n'a pas iman et qui lit ces histoires. Il n'y a rien de pire pour une religion que des gens qui croient en des faits infondés, cela discrédite plus la religion que ce n'est un appel vers la religion. Donc, ne pas discréditer la religion par des histoires fabuleuses, d'accord, et ne pas non plus aller trop loin dans les interprétations. Et principalement sur les signes de Qiyama, ma chère me disait encore il y a quelques jours que les gens aiment les hadiths sur les signes de Qiyama. Les gens aiment et ils aimeraient, ils ont l'espoir qu'on les raconte quelque chose d'exceptionnel. Ils ont l'espoir que quelqu'un les dise que, ben voilà, on a vu Imam Mehdi. Ou alors que Dajjal est né, ou des trucs comme ça. Ils veulent ce genre de choses, d'accord. Mais que vous leur dites les hadiths, d'une manière générale, les mises en garde, l'accomplissement de la salah, ou celui qui ira le voir, il sera dans telle situation. C'est des choses qu'ils connaissent déjà. Ils veulent des choses extraordinaires. Alors que les hadiths ne précisent rien d'exceptionnel. D'accord. Donc ne pas aller trop loin, comme donc certaines interprétations, comme on a vu. On va plutôt essayer de rester à la limite des textes du hadith. Alors un exemple. Concret d'interprétation complètement erronée, parfois c'est un peu voulu aussi, de personnes lorsqu'ils lisent les signes de Qiyama, cher me disait, me dit regardez, enfin nous n'avons peut-être pas connu ça, notre génération, mais ceux qui étaient là avant, les plus anciens, regardez ce qui s'est passé à Makkatul Mukarram en 1980. Je crois que c'est en 1980, quand il y a une personne qui s'est décrétée être Imam Mehdi. Et il paraît que quelque temps avant, il y avait des bayans sur Imam Mehdi. Il faut savoir que depuis ce jour, enfin je ne sais pas si c'est depuis ce jour, mais les machaïchs, à Madina, il disait que les khatibs n'ont plus le droit de parler l'imam Mehdi sur le mimbar. Haram Sharif. D'accord ? Même s'ils traitent des signes de Qiyama, mais ils sont obligés de zapper le chapitre sur l'imam Mehdi. Parce que si vous allez expliquer aux gens que viendra un homme de telle tribu, qui sera dans telle région, et qui aura telle qualité, et qui peu à peu, il verra en lui les signes de l'imam bien guidé Mehdi, et qu'un jour les gens l'accepteront, et à Makka on le fera bien, etc., il y aura plein de personnes qui naîtront en eux la vocation d'être l'imam Mehdi. Comme ça s'est passé à Makkatul Mukarrama, la personne avait une armée avec des fusils, ils ont fait rentrer les fusils dans les janazas, et puis ils ont pris d'assaut les tours, hein, c'était pas les tours comme là-bas, hein, c'était des tours, les minarets, d'accord. Et puis il paraît fusillade, des choses. Sur YouTube, il y a encore des images des personnes, etc. Allah Mustahan, un degré de fitna qu'on ne peut pas imaginer, d'accord. Alors que, si on analyse bien, l'imam Mehdi, effectivement, le bay'a se fera dans le Haram Sharif à Makkah. D'accord. Maintenant, on entend des choses aussi, hein. Même très du style, ouais, ils sont en train de faire tawaf, une main va sortir du ciel, dit, Ali, main, Mehdi, enfin, comme ça. Faut arrêter quand même. Ça, je vous assure, racontez cette histoire à un non-musulman, il va rire de votre religion. Vous n'êtes pas en train d'aider l'islam, là, vous êtes en train de montrer qu'on est prêt à croire à tout. Tout ce qu'on nous raconte, on va croire. Ben non. Qu'est-ce qui distingue notre religion? Vous voulez savoir qu'est-ce qui distingue? Le fait qu'Allah a protégé notre livre. Le Coran est mahfouz min Allah. Allah Ta'ala a pris la garantie de protéger le Coran, alors que pour les autres adiens, la Torah ou l'Injil, il y a un verset, et ça ne me revient pas, Allah Mustahan, que dans lequel Allah Ta'ala explique bien que la protection du Torah et du Injil a été laissée aux autorités, aux responsables à cette époque. C'est-à-dire que pour le Coran, Allah Ta'ala l'a gardé. Allah Ta'ala a pris la garantie de le préserver. Et nos hadiths, nous avons ce que, ça on l'a déjà dit, mais ça c'est un rappel, nous avons dans notre dîn ce qu'aucune communauté n'a eu. Les chaînes de narration. N'importe quel hadith, nous sommes capables de dire qui l'a rapporté, de qui, et on le retrouve dans tel kitab qui le rapporte de tel tabi'in, de tel tabi'in, de tel sahaba, et du prophète qui l'a dit, parfois même, le prophète l'a dit à tel endroit, à Makkah, à Madina, en voyage, dans telle circonstance, c'est ce qui fait la force de notre religion. Que notre religion est basée sur des sources fiables, solides, qu'on peut vérifier. C'est pas que n'importe qui se met debout, il va raconter des choses sur l'islam. Non, c'est pas possible. Si on peut prouver, dans Bukhari, Sharif, il y a dans Muslim, dans Tirmidhi, Ibn Majah, n'importe quel autre kitab de hadith authentique, il n'y a pas de problème. Mais si vous me racontez quelque chose, qu'un tel bouzouk l'a dit, qu'il l'a vu, et tout, ben, ça ne nous apporte rien. Ça ne nous apporte rien et on n'a pas de preuve que le Prophète sallam l'a dit réellement. D'accord ? Et le Prophète sallam avait dit que celui qui ose dire quelque chose, qui ose m'attribuer une parole, que cette personne prépare dès maintenant sa place dans le Jahannam, qu'Allah nous protège. Tellement le Prophète m'a mis en garde contre le fait de dire quelque chose, de l'attribuer une parole qu'il n'a pas dit. Il y a beaucoup d'histoires, on sortirait du sujet. Une fois, Omar ibn Khattab, il y avait un jeune sahaba qui est venu le voir, j'ai pas son nom en tête, parce que j'ai pas prévu de parler de ça. Sahaba, il cogne. Il a déjà dit où cette histoire, il cogne une fois. On ne répond pas deux fois. Au bout de trois fois, il s'en va. Vu Omar, il dit, pourquoi tu es parti? Il dit, oui, le Prophète m'avait enseigné que si vous cognez deux fois, trois fois, au bout de trois fois, il faut rentrer. C'est le sloub que, alhamdoulilah, Jamaat utilise. Alors, Omar ibn Khattab, ne connaissait pas ce hadith. Il a pris la personne par son linge, comme c'est l'habitude de Hazrat Omar, il l'a amené, dit, trouve-moi deux témoins qui approuvent que le Prophète a dit vraiment. Il dit, tu es en train d'inventer quelque chose? Et là, cette personne est passée près d'un groupe de Ansar qui était assis, et puis il a demandé, est-ce que quelqu'un a entendu, comme moi, le Prophète dire telle chose que lorsque vous demandez l'autorisation d'entrer, tapez une fois, deux fois, au bout de trois fois, vous partez, et quelqu'un dit, j'atteste que le Prophète l'a dit vraiment, et là, Omar l'a laissé. Il y a beaucoup de récits, beaucoup d'anecdotes qui prouvent que depuis l'époque des Sahaba, c'est-à-dire après le décès du Prophète, les Sahaba faisaient extrêmement attention à ce que personne ne dise une parole qui n'est pas réellement attribuée au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, après 15 siècles et demi, nous devons faire encore plus attention parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont dit beaucoup de choses. À nous de faire le tri et de rester bien raccroché au sanad, au chaîne de narration, à ce que le Prophète sallam a réellement dit, comme nos akabirin, Bukhari, Muslim, etc., comme ils l'ont rapporté dans le kitab. Taïb. Donc ça c'était concernant l'Euphrate et cette fameuse montagne d'or, signe qui ne s'est pas encore produit et qui se produira. On a iman et yaqin dessus que avant le qiyamah, ce signe se produira. Même si un jour un scientifique dit que nous avons sondé le fond de l'Euphrate, et il n'y a pas de présence de métaux précieux ou autre chose, même s'ils le disent, nous avons yaqin qu'Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire émerger de ce fleuve une montagne d'or avant le qiyamah, parce que le prophète sallam l'a annoncé et le hadith est authentique. Voyez. Également, si quelqu'un, un scientifique qui dit que oui, comment vous pouvez dire qu'il y a une population qui s'appelle Gog et Magog, qui habite dans la région près du Caucase, ou de la Géorgie, ou autre chose et tout, alors que s'il y avait présence d'êtres vivants, on l'aurait détecté par les radars ou autre chose. Alors comment pouvez-vous dire qu'il y a un homme qui en ce moment est enchaîné dans une île perdue dans telle telle région et qui serait l'antéchrist, Ad-Dajjal et tout, alors que nous avons découvert toutes les terres du monde? Alors c'est pas vrai, ils n'ont pas découvert toutes les terres, toutes les îles, mais même s'ils vous disent, ils amènent les preuves à l'appui, nous avons iman yaqin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé et nous y croyons même si les gens amènent toutes les preuves du contraire, parce que nous avons iman bil ghaib, et c'est le premier sifat, la première qualité du musulman, alladhina yu'minuna bil ghaib. Lorsqu'Allah Ta'ala commence alif lam mim, la première qualité du musulman, ça n'a pas été alladhina yuqimuna as-salah, mais bien alladhina yu'minuna bil ghaib. Ensuite, wa yuqimuna as-salah. Croire en l'invisible. Si on croit, on est mu'min. Si on ne croit pas, il n'y a même pas besoin de pratiquer la religion. Tamam de yaqin, inshallah. Alors, autre signe qui ne s'est pas encore produit, et que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé il y a 15 siècles de cela. Alors, pour s'en dire, le hadith de Thauban, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتتل عند كنزهم ثلاثة كلهم ابن خليفة ثم لا يصير إلى واحد منهم. Alors, ça c'est un hadith apporté par Ibn Majah, la chaîne de la narration est authentique, par le Hakim également, dans le Musnad, etc., etc. Alors, dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce, selon certains commentaires de hadith, qu'il y aura une époque où trois armées se dirigeront vers Makkatul Mukarrama pour s'emparer du trésor qui est sous la Kaaba, Al-Kaaba Musharrafa, et ces trois armées auront à leur tête un chef, et ces chefs seront des fils de Khalifa, c'est-à-dire des fils de roi, ou alors des fils de dirigeants. D'accord, là on n'est pas capable de dire c'est quoi Khalifa, mais c'est pas le terme Khalifatul Muslimin, non, pas des califes, mais ce seront certainement des fils de dirigeants. ثُمَّ لَا يَصِيرُ إِلَىٰ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ. Aucun d'eux ne pourra s'emparer de ce trésor. Et dans certaines versions, je ne sais pas si ça rejoint la même chose, hein, le prophète avait expliqué à Aïcha radiallahu anha que des gens ils s'orienteront vers la Kaaba et Allah Ta'ala fera ouvrir les entrailles de la terre et ces personnes seront englouties. Personne ne pourra accéder au trésor de la Kaaba. Et le hadith de Abdullah ibn Amr radiallahu anhuma, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit utruku al-habasha ma tarakukum fa innahu la yastakhriju kanz al-ka'ba ka'ba illa dhu suwayqatayn min al-habasha. Le prophète a dit que le prophète a parlé du peuple des Habasha. Il a dit que viendra une époque où ce sera quelqu'un de cette population qui tirera le trésor de la Kaaba. Et puis on l'appelle dhu suwayqatayn parce qu'il aura un défaut dans sa manière de marcher, il aura les jambes, je ne sais pas comment on appelle ça encore, arqué, je crois, hein, ça se dit. Et donc, ça, c'est autre chose. Ça fait partie des derniers signes. Ça fait partie des derniers signes. Donc, cela également aura lieu avant la fin des temps. Ça fait partie des signes qui ne se sont pas encore produits. Mais on aura l'occasion de revenir là-dessus lorsqu'Allah Ta'ala va élever la Kaaba. Là, il y aura tout un chapitre, Inch'Allah, sur le moment où Allah Ta'ala reprendra la Kaaba et que cet homme pourra aller vers l'endroit et déterrer le trésor qui s'y trouve. Taïb. Autre signe parmi les signes de Qiyama qui apparemment, certainement même ne se sont pas encore réellement produits, le prophète alayhi salatu wasalam a dit en ce sens que hadith dans lequel il dit la taqoum sa'a, le hadith est très long, le Qiyama n'aura pas lieu tant qu'il y aura telle chose. C'est des hadiths très général. Hein. Wasam annonce plusieurs signes et parmi les signes annoncés que la terre fera ressurgir ses trésors, c'est-à-dire l'or et la terre qui sont enfouis, hein, ils vont ressurgir de la terre. Mais ces trésors ne seront d'aucune utilité. Lorsque la terre fera ressurgir les trésors qu'elle contient, ces trésors ne serviront plus à personne. Il y aura une personne, un homme, il passe, il va voir ses trésors. Et lorsqu'il voit ça, il se frappe la jambe et dit que ويقول في هذا كان يقتتل من كان قبلنا واصبحت اليوم لا ينتفع بها. Cette personne va dire que c'est pour s'emparer de ce genre de trésor, c'est pour avoir les biens, ce genre de biens que les gens avant nous, ils s'entretuaient il se battait et aujourd'hui ses biens n'ont plus aucune valeur. Dans le hadith qui rejoint le même sens d'Abu Huraira radiallahu anhu, le prophète il l'explique, le hadith qui a un peu plus de détails, il dit que le voleur, Fayadi ou Sariq, le voleur il verra ses trésors, il dit que c'est pour ce genre de choses qu'on m'a coupé la main. Et le meurtrier, il va voir ses trésors, il dit Fihada kutiltu, Fihada kateltu, pardon, c'est pour ce genre de choses que j'ai tué telle ou telle personne. Et Wayadi ou Al-Qati', viendra une personne aussi qui a rompu les liens avec sa famille. Hein, par rapport aux questions de richesse, il va dire que fi hada qata'tu rahimi, c'est pour ce genre de choses, c'est pour l'argent, c'est pour les biens que j'ai rompu les relations avec ma famille. Donc en commentaire ils disent que à cette époque l'or et l'argent, on ne parle plus de monnaie là, parce qu'effectivement il peut avoir une époque où dans un pays la monnaie n'a plus de valeur, je ne sais pas à cause de l'inflation ou autre chose. Une monnaie n'a plus aucune valeur, d'accord? Mais là, on ne parle pas de umla, on ne parle pas de monnaie, on parle de or et argent. Et vous savez que l'or et l'argent, quelle que soit l'époque, quel que soit le pays où vous habitez, vous avez un lingot d'or, c'est mieux que d'avoir, je ne sais pas moi, 10 000 dollars ou avoir 15 000 euros, ça c'est clair. Right? Et donc là, le poisson précise bien que l'or et l'argent ne seront plus d'aucune utilité. Et maintenant, mes chers frères, si on analyse un petit peu ce hadith, on pourrait se dire que déjà à notre époque, si nous savions vraiment quelle était vraiment la valeur, qu'est-ce que ça vaut vraiment ces biens pour lesquels nous passons l'essentiel de notre vie pour travailler, ces biens pour lesquels parfois nous sommes prêts à aller à l'encontre de la charia d'Allah, à utiliser des moyens illicites, intérêts ou alors d'autres types de transactions qui sont haram, uniquement pour s'emparer de ce genre de biens, pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de revenus. Et si seulement nous savions comment ces choses-là sont futiles, strictement d'aucune utilité. Et dans combien de familles on a vu des frères et sœurs qui ont grandi, ils étaient petits, ils ont grandi ensemble, à l'âge de 30 ans ou 35 ans, 40 ans, un des parents meurt et il y a ikhtilaf, il y a des divergences, il y a des mésententes concernant l'héritage. Après 35 ans d'amitié, voire 40 ans d'amitié, ça nous ramène à 40 id. Allez, à l'âge adulte, ça nous ramène à 25 ou 30 id passés ensemble, bâclés d'ensemble. Après ça, il y a une mésentente pour quelques centaines ou quelques dizaines de milliers d'euros. Hein, une personne réclame tel droit, une personne dit que non, ça me revenait, etc., etc. À cause d'un partage mal fait ou de le partage, vous voyez des familles qui se déchirent, des familles qui se séparent. Un frère, il fait le qassam, il promet de ne plus jamais parler avec son frère ou un neveu avec son tonton ou autre chose, uniquement pour une question d'argent. Et wallahi, ce qui amène le plus de divergences dans les cœurs de nos jours, c'est les problèmes liés à l'argent. Il y a l'argent et l'honneur. L'argent et l'honneur, ça c'est vraiment les pièges de Shaytan qui marchent le mieux. Le prophète, il avait annoncé dans le hadith que ce qu'il craignait le plus pour nous, c'était quoi? C'était lorsqu'Allah Ta'ala, il donnera à sa communauté un jour les biens. Lorsque nous serions riches, plus on a, plus nous avons des raisons pour avoir des divergences. Et ça c'est le gros problème. Et l'honneur, Allah Musta'an. Parfois on se demande, est-ce qu'on a réellement compris quand le prophète sallam il disait que innamal a'malu binniyat, ce hadith de base que nos enfants apprennent à la madrasa, que les actions ne valent que par leur intention. Quand il y a sincérité dans une action, dans une entreprise, dans un projet, ben il y aura le résultat. Il y aura la baraka dedans. On revient donc au sujet. Donc la question qu'on pourrait se poser, si on réagissait comme ceux qui essaient de trouver des réponses dans tous les hadiths concernant le qiyama, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce que l'or et l'argent n'auraient plus aucune utilité en ce jour? Alors, donc là, on peut ouvrir des chapitres et des chapitres. Peut-être que ce sera une époque, mais on va pas agir comme ça, mais on peut dire que peut-être ce sera une époque où il y aura, je ne sais pas moi, il y aura Dajjal, ou alors une époque où il y aura tellement de guerres que le plus important serait de trouver à manger. Parce qu'effectivement, il viendra une époque où il y aura des guerres que le prophète a qualifiées comme étant des malahim. On pourrait traduire malahim par des tueries. Je pourrais même dire des boucheries. Des guerres comme jamais l'humanité n'a connues. Et c'est des choses qui vont arriver à un moment donné. Où il y aura une telle quantité de personnes qui vont mourir. Alors maintenant, imaginez à cette époque, quel intérêt d'avoir l'argent, d'avoir de l'or et de l'argent. Le plus important, c'est d'être en sécurité et certainement d'avoir à manger. Mais quand le prophète n'a pas expliqué pourquoi est-ce que la yuntafa'u biha, que personne ne pourra jouir, personne ne s'intéressera plus à ses trésors, le prophète n'a pas expliqué, donc on n'ira pas plus loin. Alors, les hadiths plus général, un très beau hadith, les hadiths sont beaux. C'est un hadith qui nous fait comprendre que réellement, nous sommes vraiment dans les derniers, Allah musta'an, nous sommes proches de la fin des Ashrat al-Sa'a. Hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, dit que le Prophète m'a dit que ilzamu hadhi ta'a wal jama'a, que restez ferme de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et restez unis. Et ça, c'est important. Rester unis, avoir la muhabba entre nous, l'union des cœurs, c'est ça qui fait notre force. Le Prophète m'a dit que, le hadith est un peu long, il dit que viendra une époque, wa innama takrahuna fil jama'a khayrun mimma tuhibbuna fil firqa. Ça, c'est une parole magnifique. Le Prophète m'a dit que ce que vous allez avoir avec ce que vous allez supporter, voilà, ce que vous allez supporter en vivant en communauté, c'est mieux pour vous que ce que vous allez avoir et que vous allez aimer en restant seul. C'est pas idéalement traduit. Moi, ça m'avait expliqué une fois dans un hadith qu'une personne qui vit dans la société et qui supporte le mal des gens et qui prend patience à vivre avec les gens malgré les conséquences qu'il peut y avoir, c'est mieux qu'une personne qui s'isole et qui donc n'a plus de problème. Parce que quelqu'un, il va habiter dans les hauts et tout, il prend une petite maison, ben c'est sûr, il travaille, il mange, il boit, il n'y a plus de problème. Il n'y a pas ribat, il n'y a pas bohtan, il n'y a pas namima, il n'y a pas hasad, il n'y a pas qila waqal, il n'y a pas les voisins, il n'y a pas tel chose, il n'y a pas tous ces problèmes, parce qu'il habite, hein, la plaine des Kaf, il habite Silas, il habite je ne sais où. Mais le Prophète dit que celui qui vit avec les gens, et qui supporte le mal des gens, qui fait preuve de sabar, mais qui, malgré tout, il agit correctement, cette personne a plus de bienfait, cette personne a plus de mérite. Donc, ça rejoint ce que le Prophète a dit dans cette première phrase. Et le Prophète a dit « Wa inna Allah ta'ala lam yakhluq shay'an qat illa ja'ala lahu munta. » Et Allah ta'ala n'a rien créé sans que cette chose doit terminer, doit finir. Et le Prophète a dit « Wa inna hada dina qad tamma wa innahu sa'irun » On va être trop long, si on dit tout en arabe. « Et ce din, cette religion, elle a atteint son summum. Et viendra un jour où cette religion, en parlant de l'islam bien sûr, cette religion va aller en diminuant. Et parmi les signes du déclin, mais ce n'est pas un déclin que la religion s'affaiblit, non. C'est un déclin voulu par Allah. Allah a décidé que viendra une époque où il n'y aura plus de dîn sur la terre. Et Allah fera en sorte que telle et telle chose se produise pour que les gens ne pratiquent plus. Il n'y aura plus de mu'min sur la terre même. Et parmi les signes, parmi ces signes, le Prophète m'a dit « an turta al-arham » que les gens romperont les liens avec leurs proches. On ne connaîtra plus les membres de la famille, les membres d'une même famille ne se fréquenteront plus. Ça, c'est la première chose. Bon, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais on le dit rapidement. « Wa yu'khadhul mal bighayri haqqin » et les gens prendront l'argent de manière illicite et injuste. On ne regardera pas les sources du revenu, ni si on a fait du tort à notre prochain pour avoir cet argent. Le plus important, c'est de l'avoir. Ça fait partie des signes de la fin des temps lorsque la religion sera au plus faible. Vous voyez ce que dit Ma, et il y aura des tueries, il y aura beaucoup de gens, il y aura des manques en tir dans Moustaham. Vous voyez, également, les proches se plaindront de leur famille. C'est-à-dire qu'il y aura tellement de discorde dans les familles que les proches se plaindront de leur prochain. Et maintenant, on peut se demander, est-ce qu'on n'est pas déjà à cette époque où les gens ils pensent juste qu'à gagner l'argent, quelle que soit la source, sans se soucier si c'est licite, oui ou non? Est-ce qu'on n'est pas à une époque où il y a tellement de meurtres comme on n'en a jamais vu dans les statistiques? Est-ce qu'on n'est pas à une époque où il y a des cassures dans les familles et peu de familles restent encore unies, Wallah Musta'an? Et le Prophète il rajoute, il dit qu'il viendra une époque et parmi ces signes que le pauvre, le jour du Jum'a, hein, il passera auprès des gens pour avoir de la sadaqa et personne ne lui donnera même pas une pièce, c'est-à-dire cette personne n'aura strictement rien. Donc le Prophète dit que lorsque tous ces signes, et puis il y a d'autres choses encore, lorsque parmi ces choses, oui, ben le plus important, ce qui nous intéresse, est que lorsque la terre fera ressurgir ses trésors, min al-zahabi wal-fidda, la yanfa'u ba'da dhalika shay min al-zahabi wal-fidda, alors que plus rien n'aura de valeur ni l'or ni l'argent. Donc ça fait partie des signes qui auront lieu certainement avant la fin des temps, que la terre fera ressurgir tout ce qu'elle contient comme trésor. Mais pourquoi, on ne sait pas exactement, mais à cette époque, les biens n'auront plus de valeur, les gens ne seront plus intéressés par les biens. Faïb, je fais encore un signe pour compléter 30 minutes, on est à 30 minutes, encore un, 35 minutes. Le dernier signe, qui fait partie des signes qui n'ont pas encore eu lieu, mais ça c'est un peu long, mais on va peut-être juste en parler, on présentera le sujet, puis on complétera par la suite, Inch'Allah. Le prophète, alayhi salatu wa sallam, dit un hadith, rapporté par Imam Ahmad, la taqumu sa'ata ta'uda hatta ta'uda ardu al-arabi maroujan wa anhara. Viendra une époque, le qiyamat n'aura pas lieu tant que ardu al-arab, tant que la terre des Arabes ne reviendra pas verdoyante avec des fleuves qui coulent. Il peut prendre ainsi d'autres choses. Wa hatta yasiru al-rakib bayna al-Iraq wa Makkah, et parmi ces signes également qu'un voyageur pourra quitter l'Irak, vous savez l'Irak, un voyageur pourra quitter l'Irak et se rendre à Makka, la yakhafu illa dalal al-tariq. La seule chose que cette personne pourra craindre, c'est de se perdre. C'est-à-dire qu'il y aura la sécurité dans le monde. Et alhamdoulilah, de nos jours, il y a la sécurité. Et puis il y a des choses qu'il y aura des tueries, bon ça on a déjà expliqué. Et donc le signe qui nous intéresse, c'est que la péninsule arabe, la terre des Arabes, reviendra verdoyante avec des fleuves. Et ça, comme on a dit, il y a beaucoup de commentaires, il y a beaucoup de choses à dire à ce propos. Comme c'est un peu long, on va garder ça pour la prochaine fois, Inch'Allah. Et puis la prochaine fois, on terminera avec quelques petits hadiths encore, un peu plus général sur les derniers petits signes de Qiyamah. Et puis on pourra passer à quelque chose de plus sérieux. Mais on commencera les Ashrat al-Sa'a al-Kubra, parce que je pense qu'on aura fait, Inch'Allah, le tour des petits signes. On n'a pas fait tout, bien sûr, mais je pense qu'on a fait au moins 50, voire 60% des petits signes de Qiyamah. Et parmi les signes qu'on n'a pas vu du tout encore, les catastrophes naturelles, concernant les ouragans, les arrih al-aqim, les ouragans justement, al-khasaf, les tremblements de terre, etc., etc. Ça, ce sont des signes également qu'on doit aborder, parmi les petits signes de Qiyamah. Et on va essayer d'approfondir sur ce sujet, la péninsule arabe. Et ça nous ramènera vers ce que certains disent. Certains disent que ça suit certaines radios, des radios très spirituelles, quand on dit que peut-être que le Qiyamah, la fin du monde, aura lieu en 2012. Ils disent qu'il y a une météorite qui... C'est vrai, bon, ça c'est des radios, il faut être très intelligent pour comprendre le style. Mais effectivement, vous savez qu'on avait traité ça une fois à notre endroit. Il y a une météorite qui, éventuellement, il y a un pourcentage élevé de chances qu'il s'écrase sur la Terre, d'accord? Est-ce que le Qiyamah pourra avoir lieu par cet événement? Jamais de la vie. Bien sûr que non. Sinon, à quoi ça sert tous ces hadiths? Si c'était juste un caillou qui nous aplatit. Il n'y a pas Imam Mehdi, il n'y a pas Dajjal, tout ça, on a dit que ça fait là. On a dit pourquoi nous? Il n'y a pas Imam Mehdi, il n'y a pas Dajjal. Il y a plus de Gog et Magog qu'il y a d'êtres humains sur la terre. La population de Gog et Magog est supérieure à la population humaine. Et là, je me trahis en disant population humaine parce que ce sont également des êtres humains. Ce n'est pas les monstres avec les grandes oreilles. Ça, c'est des histoires, tout ça. Qu'on comprenne bien. Donc, il y a quantité de ces grands signes qui doivent apparaître. Et le règne de Dajjal, la durée du séjour de Dajjal, c'est 40 jours et le premier jour durera un an. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de temps. Et subhanallah, Isa alayhi salam, combien de temps il va rester sur la terre? 7 ans. D'accord? Allez, si Isa il vient après Fajr, il ne peut pas déjà. Il faut qu'Imam Mehdi soit là en premier. Et avant qu'Imam Mehdi soit là, il faut qu'il y ait ses armées qui s'orientent vers la Kaaba. D'accord? Et puis il y aura Imam Mehdi. Et avant qu'Imam Mehdi n'arrive, il faut que. Est-ce qu'on peut dire ça? On peut dire. Il faut que la situation soit telle que si un musulman annonce que je suis musulman, on le tue immédiatement. Ce n'est pas le cas encore. D'accord? Et donc, bon, là, il y a eu un avion qui s'est écrasé. Allah, qu'Allah, il fait raham pour ses enfants, pour ses ma'asoums. Et vous savez, le monde est préoccupé par autre chose. Là. Il y a la grippe A. Il ne faut pas appeler la grippe porcine, parce que le porc, c'est pur. D'accord? Parce qu'après, les gens ne vont plus manger de porc. Ils vont peut-être comprendre que dans notre religion, il y a un sens quoi, concernant la consommation du porc. On a la grippe A. Et puis, A, c'est un meilleur note, l'école A. Donc, il vaut mieux la grippe A que la grippe D, parce que bon, d'accord, c'est insuffisant. Donc, voilà. Donc, les esprits sont préoccupés par la grippe A et par la crise économique, d'accord? Ce qui fait que personne n'a pu penser encore que c'est des musulmans qui ont détourné cet avion. Je vous assure, s'il n'y avait pas la grippe A et qu'il n'y avait pas la grippe économique, la crise économique, on peut dire aussi la crise économique, ben, s'il n'y avait pas ça, ben, c'est clair, ça aurait été, je ne dis pas les noms, mais tel groupe, il y aurait eu des revendications, d'accord? Donc, on n'est pas encore à cette époque où quelqu'un dit qu'il annonce. On revient comme l'époque des Sahaba, là, comme Bidar qui dit qu'il est Ahad Allah unique, et on le paie sécurité. Donc, tant qu'il n'y aura pas une situation aussi chaotique dans le monde musulman, Imam Mehdi ne viendra pas. D'accord? Et tant qu'Imam Mehdi ne sera pas là, Dajjal ne sera pas là. Et tant que Dajjal ne sera pas là, Isa alayhi salam ne descendra pas. Et tant que Dajjal ne sera pas tué, Gog et Magog ne sortiront pas. Et tant que Gog et Magog ne seront pas exterminés, il n'y aura pas l'époque de Baraka exceptionnelle. Il n'y aura pas cette époque comme l'humanité n'a jamais connue en termes d'abondance et tout ce qu'il faut comme bienfait de la part d'Allah. Et tant que cette époque n'arrivera pas, il n'y aura pas encore ce vent qui viendra et qui prendra l'âme des mu'mines et puis le soleil qui se lèvera de ce côté et Adaba, cette bête qui sortira du mensonge, etc. C'est-à-dire que si dès demain, Imam Mehdi venait à sortir, mais il faudrait calculer le nombre d'années qu'il va faire avant Dajjal arrive, 7 ans de Isa alayhi salam, le règne de Dajjal, le premier jour c'est 1 an, le deuxième jour 1 mois, etc. Donc mathématiquement 2012 c'est trop près, c'est pas possible. Hein? Donc déjà il faut qu'on comprenne bien ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui demandent, des musulmans, hein? Moi c'est des lycéens, c'est des élèves, ils n'ont pas encore atteint une maturité comme il faut, d'accord, mais ils se posent des questions, ils écoutent certaines radios, ils disent que oui, ben, est-ce que c'est vrai, etc. Donc, taïb, vous voyez, ce genre de propos, hein, quand vous entendez une radio qui parle de ça, ça discrédite pas. C'est n'importe quoi, d'accord? Dans notre dîne, c'est pareil. Tout ce qu'on dit doit être fondé. Soit c'est Allah qui l'a dit, regardez, c'est écrit dans le Coran. Soit c'est le Prophète qui l'a dit, regardez, le Prophète l'a dit, et regardez le Sahaba, hein, il rapporte, c'est écrit dans Bukhari Sharif. Bukhari, regardez, il y a 8 personnes qui se sont succédées. Ils étaient en Égypte, tous les 8. Les 8 personnes étaient en Égypte. Alors, ils étaient telle région, ils ont vécu à 60 ans de décalage. Ce qui fait que c'est mathématiquement possible qu'ils se soient rencontrés à tel endroit pour que rapporter ce que le Prophète m'a dit. Avec cette ligne de conduite dans ce que nous rapportons de notre religion, notre dîn sera toujours respecté et il restera respectable. Qu'Allah donne tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique et qu'Allah donne tawfiq de transmettre une religion authentique à nos enfants et qu'Allah y remplisse nos cœurs de iman. Il nous permet de transmettre ce iman à nos enfants pour que nos enfants, un jour également, ils puissent regarder, alhamdoulilah, regarder les travaux qui sont en train d'être faits. Ça, c'est des choses historiques, quoi. C'est un travail qui a commencé il y a 100 années de cela et qui, d'année en année, ce travail est repris, entretenu. Et ça, c'est un patrimoine. Bon, c'est un hoz, c'est magnifique. C'est un patrimoine qui sera légué à nos enfants, d'accord? Et maintenant, si nous n'allons pas inculquer le dîn à nos enfants, est-ce qu'un jour nos enfants, ils feront fikar pour s'occuper de la masjid, s'occuper du madrasa, s'occuper d'al-jamal, hein, faire en sorte de construire d'autres masjids à des endroits où il y a des musulmans, des populations un peu plus éloignées? Si nous ne transmettons pas le dîn à nos enfants, Allah seul sait de quoi sera fait l'avenir. Qu'Allah t'en tawfiq de comprendre, de faire amal, de transmettre à nos mères et à nos sœurs, man tawfiq illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خير.